Introduction à la philosophie première par le père Philippe Arimont, le 18 avril 1993, quatrième cours.
J'avais pensé continuer, mais je crois qu'il vaut mieux répondre à toutes ces questions. Je vais essayer d'aller assez vite. Qu'est-ce qui permet de dire que c'est la lumière qui fait l'unité de l'univers et non la matière? Constatation. Vous savez, c'est curieux, quand Aristote, Thomas d'Aquin, Teilhard Chardin disent la même chose, ça m'épate, moi. C'est juste. Parce que la lumière est acte. À cause de ça, du monde physique. Très mystérieux ce que c'est que la matière. Ce que c'est que la lumière. J'avais beaucoup à dire là-dessus. Est-ce que quelque chose a changé intimement dans l'univers depuis l'Immaculée Conception? Tiens, j'y ai pas pensé. C'est le père Kolb qui dit que le mystère d'Immaculée Conception change toute la théologie. Mais donc, c'est pas entièrement vrai. C'est juste en même temps, c'est que le mystère d'Immaculée Conception montre la victoire plénière de la croix sur le péché. Et donc on est en face d'un univers pur. Comme tout l'univers est ordonné à l'homme, le chef-d'œuvre de la créature comme créature, c'est bien Marie. Alors on pourrait dire, vous voyez, mais au plan théologique, hein, pas au plan philosophique, faisons attention, hein, je précise bien, comme le soir on peut passer de la philosophie à la théologie, ça fait partie du soir. Alors, au plan théologique, Marie est cause exemplaire de toute la création, même des anges. Alors, on peut dire à ce point de vue-là que l'univers trouve sa clé. Non pas sa finalité, parce que la finalité est au-delà. C'est l'humanité sainte de Jésus. Il y a une double finalité, vous voyez. Il y a la finalité immanente et la finalité extrinsèque. C'est pour ça que j'aime mieux dire causalité exemplaire. Marie, c'est la femme. Et puis, je crois que c'est ça que Jésus dit quand il dit femme à Marie. Au sens très fort. C'est la créature parfaite. Alors c'est très curieux que quand je regarde le texte de l'écriture de la Genèse, second texte de la création, Dieu crée d'abord l'homme, et puis il crée ensuite la femme, comme s'il avait oublié la femme. C'est parce que l'homme s'ennuie qu'il est obligé de créer la femme. Alors vous voyez tout ce que je peux dire là-dessus, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est pas tout à fait juste. Je peux dire aussi que la femme est la benjamine. Et selon l'écriture, la benjamine est toujours plus aimée. Et c'est en créant la femme, et après la création de la femme, que Dieu s'est reposé. Un artiste se repose qu'après avoir réalisé son chef-d'œuvre. Vous voyez ? C'est tout ça très très mystérieux. Et le mystère de l'Immaculée Conception, c'est bien la reprise totale de tout. C'est pour ça que ça nous est réservé. Vous savez, ces trois derniers dogmes d'Immaculée Conception. L'infaillibilité du pape et l'Assomption, c'est Marie qui garde le pape. Aujourd'hui, tous ceux qui n'aiment pas la Vierge Marie critiquent le pape. Et critiquent l'infaillibilité du pape. On disait méchamment, parce que les théologiens sont toujours un peu méchants quand ils sont les uns contre les autres. C'était du temps où Hans Kuhn faisait beaucoup de bruit. Il ne peut pas être pape, parce que pour lui, le pape n'est pas infaillible. Il se croit infaillible. Ah oui, ça c'est le serpent qui mord sa queue. Alors, c'est vrai, je ne dis pas que l'Immaculée Conception change intimement l'univers, mais lui donne une causalité finale. Une causalité exemplaire, je veux dire. Et la causalité finale est dans l'humanité sainte de Jésus. Je crois que tout notre univers physique, c'est la matière et la lumière. La matière fait l'unité au niveau continuité quantitative, et la lumière donne l'acte de notre univers. C'est pour ça que la lumière est du côté de la beauté. La matière n'est pas du côté de la beauté. La matière, c'est le conditionnement, ce que je disais tout à l'heure. Alors là, je crois. Je crois vraiment que c'est le conditionnement. Peut-on faire une relation entre saint Thomas et Heidegger quant à la question de l'être? Qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui les rapproche? Oui, c'est très intéressant ça comme question. Voyez, je crois que c'est ce que je vous ai dit l'autre jour, très rapidement. Parce que, croyez bien que ce que je vous dis, je l'ai longuement médité. Et que, il y a toutes les années de philosophie derrière, je suis obligé de donner rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est le rapport de ceci, ce qui est, ou ceci est, et là, vous allez tout de suite comprendre la différence entre Heidegger et Thomas d'Aquin. Ceci est, donc, jugement d'existence, l'éveil de mon intelligence, point de départ de l'éveil de l'intelligence. C'est ce qui éveille l'intelligence. L'intelligence est réveillée par la réalité existante. L'intelligence interroge. L'être apparaît dans l'interrogation. L'interrogation, c'est l'intelligence qui veut aller plus loin, qui veut dépasser l'expérience pour saisir ce qu'il y a de premier. Alors, vous voyez, je passe du point de départ de l'intelligence liée dans son conditionnement à les sensations, à une intelligence qui veut dépasser l'expérience et qui veut saisir les choses de l'intérieur. Donc, il veut saisir le secret de l'être, sa source, ce qu'il y a de premier. L'intelligence cherche toujours à saisir le secret, ce qui est intime, ce qui est caché, la source. Une source est un secret. Je voudrais faire la philosophie du secret. Hein. beaucoup de faire la philosophie du secret. C'est très très important. Et ça éclaire des quantités de choses. Vous voyez, le secret est la source. Et l'intelligence cherche. L'intelligence comme intelligence, elle cherche latim intus lecere. Lire de l'intérieur. Saisir de l'intérieur. C'est pour ça qu'elle interroge. Alors, par l'interrogation, elle s'élève très haut. Donc, elle passe du concret à l'abstrait. Ceci est, mais grammaticalement, du présent à l'infinitif. C'est curieux, ça. La parole, je ne fais pas une philosophie de la parole, mais la parole est un signe pour moi, toujours, voie du philosophique. La parole m'indique. Faut être attentif au langage. On n'a pas le droit de ne pas s'en occuper. Hein. Parce que c'est quand même le fruit de la connaissance de l'humanité. Et quand les philologues essaient de comprendre la naissance du verbe être dans les différentes langues, c'est très très intéressant de voir qu'il y a, pour certaines langues, l'être apparaît tout de suite. Et pour d'autres langues, l'être apparaît très très tardivement. Je crois me rappeler, pour le grec, il apparaît tout de suite, et pour le latin, c'est très tardif. C'est très curieux. Et quand vous comparez les différentes langues actuelles, cherchez le verbe être. On dit souvent que dans la langue arabe, le verbe être n'existe pas. Alors j'ai dit ça une fois, j'ai posé la question à un de mes étudiants arabes. Il a bondi. Il y a 5 expressions pour exprimer l'être. Alors ne disons pas que ça n'existe pas. C'est plutôt dans les autres langues, c'est très pauvre. J'ai compris. Pas besoin d'insister. Alors, le passage, la signification. Pour Thomas d'Aquin, l'intelligence dans l'expérience, dans la méta-expérience du jugement d'existence, l'intelligence saisit ceci est. Je m'arrête à est. Et c'est l'intelligence qui s'arrête à l'exister. Ceci est. Ce qui est éveille l'intelligence et en même temps apparaît comme ce qui transcende l'intelligence. Ce que je connais de la réalité existante n'est pas la réalité existante parfaitement. C'est quelque chose de la réalité existante. La réalité existante est plus que ce que j'en connais. Si très important, et c'est parce que c'est quelque chose de plus que j'interroge pour connaître mieux le plus qui est caché et pour pouvoir regarder de l'intérieur. Et alors c'est l'interrogation, je passe du concret à l'abstrait. Pour saint Thomas, la signification de être et la signification de est la même selon deux modalités différentes, le concret existant et l'abstrait qui n'existe que dans mon intelligence. L'être sous la forme abstraite, comme la blancheur, n'existe que dans mon intelligence. Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais rencontré l'être abstrait. Ce sera un spectre effrayant. J'aurais très peur. Tandis que je touche constamment et je vois constamment des réalités existantes. Alors pour saint Thomas, vous voyez, c'est ça qui montre la différence. La signification est la même. Pour Heidegger, il faut nier, anéantir, néantiser tout ce qui est, qui sont pour lui les étangs. « ce que les savants, dit-il, étudient. Je nie tout ça pour que apparaisse l'être, penser l'être. Et la signification de l'être qui est dans la connaissance, dans l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Puisque là aussi il reconnaît que c'est l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être qui me donne la première pensée sur l'être ? L'être n'apparaît que dans la pensée. Et donc, l'être a une signification, l'être dans la pensée a une signification autre que ce que je saisis dans l'expérience concrète. Alors, vous voyez qu'il y a par le fait même une signification différente de l'être chez Thomas d'Aquin et chez Heidegger. Chez Heidegger, je suis dans la continuité de Descartes. Cogito ergo sum. L'exister, je suis, est saisi à travers le cogito. Et dans le cogito, c'est bien penser l'être. Je pense l'être, et l'être n'est donné que dans la pensée. Alors, quelle différence y a-t-il ? Donc, vous voyez bien la différence, j'espère. D'une certaine manière, pour Heidegger, il maintient une opposition dialectique entre ceci est l'étant et être, penser l'être. Pour Thomas d'Aquin, il n'y a pas de pensée dialectique, il n'y a pas d'opposition, il y a tout simplement une manière différente, une modalité différente du concret à l'abstrait. On saisit bien la différence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, pour Heidegger, la manière dont j'atteins la réalité modifie ce qui est connu de la réalité. Je n'arrive pas, dans Heidegger, à distinguer suffisamment ce qui spécifie, ce qui détermine l'intelligence et la manière dont l'intelligence est déterminée. Alors, c'est très curieux. Quand Thomas d'Aquin critique le néoplatonisme, il dit les néoplatoniciens ont confondu ou ont bloqué la manière de connaître et la réalité connue. Donc ça, Thomas critique Heidegger à travers les néoplatoniciens. Ça, c'est très intéressant. Moi, ça, c'est merveilleux de voir ça. Thomas d'Aquin critiquant les néoplatoniciens, de fait, porte la critique que nous portons sur Heidegger. L'intelligence est capable de connaître ce qui la spécifie et la manière dont elle connaît cela. Autrement dit, il y a une autocritique constante dans l'intelligence pour être suffisamment lucide pour voir ce qu'elle saisit et la manière dont elle saisit. Ce que saint Thomas appelle la ratio entes et le modus. La ratio et le modus, c'est intraduisible ça. Ratio, c'est ce qui spécifie dans toute sa pureté l'être. L'intelligence est capable de saisir l'être en acte qui spécifie la connaissance. ce qui spécifie mon jugement. Ce qui détermine, quand je dis spécifier, détermine mon jugement. C'est le contenu de ma pensée. Ce que je saisis, c'est l'être. Ce que je veux saisir, c'est l'être. Indépendamment de ces différentes manières d'être. Le mode, c'est les manières d'être. Or, le mode concret et le mode abstrait sont distincts. Si je bloque le mode et la raison d'être, il y a une distinction, une opposition entre la manière concrète de dire ceci est et la manière abstraite de dire qu'est-ce que c'est que l'être. Et donc la signification de l'être est autre dans le jugement d'existence et dans l'abstraction. Pourquoi la signification est autre? Parce que je ne distingue plus ce qu'est l'être et comment l'être se donne à moi. Vous voyez, en grec, c'est le ti esti et le pos. Le pos, c'est le comment. Comment je saisis l'être. Et le ti esti, ce qu'est l'être. Ce qu'est l'être, c'est la raison, c'est la ratio. Le comment, c'est le mode. Ça, évidemment, c'est le scalpel de l'intelligence. Hein. Vous êtes chirurgien d'intelligence pour bien saisir ça. Mais c'est capital, c'est la différence entre l'aristotélisme, le réalisme aristotélicien et le réalisme néoplatonicien. Dans le creux le plus profond. Et c'est à propos de l'être que je le saisis. Et Heidegger dit ça parfaitement. Vous voyez, alors, c'est la différence entre la connaissance philosophique et une connaissance poétique. Le poète ne sépare jamais la raison, la ratio et le mode. Il ne sépare jamais, parce que le poète saisit toujours la réalité existante sous un mode symbolique. C'est propre du poète. Il voit tout de suite ça. Et Heidegger est un poète. C'est un philosophe poète. Mais parce qu'il est philosophe poète, il ne va pas assez loin dans son analyse philosophique. Et parce qu'il est philosophe et poète, il ne va pas assez loin dans sa poésie. Il est entre les deux. Alors qu'il faut distinguer le type de connaissance poétique et le type de connaissance philosophique. Le philosophe analyse, le poète sublime. Tout le temps. Il a un sens très extraordinaire pour sublimer, montrer l'aspect symbolique, le rayonnement de l'être. C'est sa splendeur. Un vrai poète voit tout en splendeur. Ou tout dans les enfers. Bon, la beauté de Lucifer, au Baudelaire, c'est une sublimation assez particulière. Sublimer le mal. C'est le démon qui sublime le mal. Et le démon est poète à sa manière. Il n'est pas métaphysicien. Parce qu'il a perdu la finalité. Il a gardé le sens poétique. C'est très très curieux ça. Mais il a perdu le sens de la recherche de la vérité, de la contemplation. Ça ne veut pas dire que la poésie est toujours démoniaque. Hein. Mais je veux dire qu'il y a un passage. ça, il suffit de lire Baudelaire pour s'en apercevoir. Qui est extraordinaire, à ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'au point de vue poétique, on passe du ciel à l'enfer. Alors, j'espère que ça explique assez. Je veux bien aller plus loin, mais alors on entrerait dans des distinctions. Là, je touche le point de vue le plus profond et qui, je crois, permet de regarder toutes les conséquences. Pourquoi ? Pourquoi des banderoles en chinois au réfectoire ? Vous voyez pourquoi ? Parce qu'on est très lié à la Chine. Il y a des Coréens. Il y a trois petites sœurs chinoises contemplatives. On doit préparer l'évangélisation de la Chine. Et l'évangélisation de la Chine le prononce à Taïwan, à Taipei, me disait, il faudra pénétrer dans la Chine par la vie contemplative et ensuite la vie apostolique. Mais d'abord la vie contemplative. Il m'a dit ça spontanément. Quand j'ai dit qu'il y avait trois jeune chinoise qui était à Saint-Jean-d'Arc. Mais ça c'est... Alors c'est pour ça, vous comprenez ça. Vous comprenez, hein, c'est symbolique, quoi. Et c'est un très beau symbole, c'est une écriture très symbolique. Quel en est le sens ? Je viens de vous le donner. Pourquoi la philosophie semble être issu d'un autre peuple que le peuple choisi, peuple de la théologie. Ah, c'est curieux. Oui, c'est très bonne question, ça. Vous savez, Hegel, au début, le jeune Hegel, fait la comparaison entre Abraham et Socrate. Se rencontre dans le ciel, ça doit être assez curieux. Alors si vous avez un peu de talent, faites le dialogue d'Abraham et de Socrate. Il y aura des tas de choses à dire. Abraham, père du peuple choisi. La foi, Louis. Le grec. De la langue cultivait, si vous voulez. C'était l'influence grecque, là, au point de vue de l'art, au point de vue de la philosophie. C'est comme je vous disais, les Épictète, en l'an 50, enseignait à Rome, en grec. Alors, vous pouvez, vous voyez, pour moi, c'est, puisqu'on est là-dessus, on peut dire un mot, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire au point de vue de l'histoire, de l'économie divine. Vous avez Athènes, Jérusalem. Vous avez Jérusalem et Rome. Cette chose invraisemblable qu'on lit dans les Actes des Apôtres, que Pierre, Galiléen, quitte Jérusalem pour aller à Rome. C'est invraisemblable. Alors vous avez Athènes, Socrate. Socrate, Platon. Ah, c'est excellent, ça. Cela fait plusieurs années que je suis des cours de philosophie et de métaphysique. Et je ne deviens pas meilleur. Ah, l'efficacité. Est-ce que la métaphysique est ordonnée premièrement à pour un meilleur? Est-ce que vous êtes devenue plus intelligente? Vous n'auriez pas fait de métaphysique, pas de philosophie, vous n'auriez pas constaté que vous ne devenez pas meilleur. Vous auriez cru que vous étiez très bonne. C'est-à-dire que là, vous commencez à voir que, hein, il y a du chemin à faire. Et c'est vrai que la philosophie nous rend beaucoup plus conscients de ce qu'on est, de nos limites et de l'orientation qu'il faut prendre, la finalité vers laquelle il faut aller. je crois que la philosophie nous rend plus lucides. Et l'éthique, qui fait partie de la philosophie, nous oblige de comprendre qu'il faut lutter pour devenir meilleur. La personne humaine est substance, détermination dans l'être et acte, finalité. Alors là, c'est sur la personne, je réserve ça à demain, parce que c'est demain qu'on verra la personne. Pourriez-vous dresser sous forme d'opposition les différents préjugés propres aux différentes idéologies athées, préjugés qu'elles ont lancés sur le marché depuis deux siècles, un siècle et demi, pour qu'on puisse se repérer et vivre dans ce monde en prenant de la distance vis-à-vis d'eux. Ah oui, je comprends. J'y réfléchirai, et puis si je vois que je peux vous les donner demain, je vous donnerai. C'est-à-dire les confusions clés. Voyez, il y a une confusion. Ici, je vous ai montré la confusion de Heidegger. Heidegger n'est pas un athée. Louvain, je ne sais plus quel professeur de Louvain, a voulu dire, en écrivant sur Heidegger, qu'il était athée. Heidegger a réagi violemment. Il dit non, je ne suis pas athée. Mais je montre que la philosophie est une attente de Dieu et que le philosophe ne l'atteint pas. Et pourquoi Heidegger a dit ça? Heidegger a été très influencé par Luther. C'est quelqu'un qui connaît très bien Heidegger, qui avait vu sa thèse sur Heidegger, qui me disait ça. Il est né catholique, il est mort catholique. Il a été très influencé par Luther. Et la position de Luther, l'intelligence humaine, dans ce qu'elle a de plus noble, elle est blessée par le péché. Donc elle ne peut plus monter jusqu'à Dieu. Donc il est dans une position de fidéiste, mais pas tout à fait, puisque on attend Dieu. C'est l'attente de Dieu. Donc, alors si vous voulez, nous allons commencer, mais j'irai très vite, parce que je veux quand même, dans une session comme ça, on doit montrer tous les grands problèmes. Alors, nous allons tous les grands problèmes au niveau philosophie première. Alors, je vous disais tout à l'heure que la seconde grande induction qu'il faut arriver à comprendre en philosophie première, c'est la découverte de la fin, ce qui finalise, ce qui est en tant qu'être. Découvrir, si vous voulez, ce qui fait que l'être en tant qu'être est parfait. Autrement dit, quelle est la perfection de l'être ? Si on voulait bien faire cela, il faudrait essayer, je vous le dis parce que ce serait important pour nous, de redécouvrir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la finalité. Parce que nous n'avons plus du tout le sens de la finalité. À quel moment découvrons-nous la finalité ? Dans l'ordre génétique. J'avais oublié l'ordre génétique. Je crois que dans l'ordre génétique, on découvre la finalité en premier lieu par l'activité artistique. L'artiste travaille pour une œuvre, pour un poème. Il est tendu vers une œuvre. L'œuvre finalise le travail. Le travail demande d'être efficace. La philosophie de l'efficacité, on l'a à partir du travail. Tandis que la philosophie de la fécondité, on l'a à partir de l'amour d'amitié. Il ne faut jamais l'oublier. Fécondité et efficacité, c'est deux mondes différents. Et on les bloque aujourd'hui. C'est encore de ces confusions. C'est toute une série de confusions qui disent, je suis sûr qu'on les retrouve au cœur de ces idéologies athées. J'en ai déjà donné quelques-unes. Je vous ai dit, autorité et pouvoir. Confusion énorme. Coopération. Exploitation. Des confusions. Efficacité, attendez. Fécondité. Efficacité. Vérité. Sincérité. C'est intéressant de saisir tous ces blocages qui se sont faits. Et ces blocages se sont faits parce qu'on n'avait plus le sens de la finalité. L'autorité ne se comprend que par la finalité. La coopération que par la finalité. La fécondité que par la finalité, la vérité que par la finalité. Alors, l'absence de la finalité fait qu'on tombe dans l'efficacité. Et dans notre monde d'aujourd'hui, il y a un primat d'efficacité. Constamment. Ça réussit, donc c'est bien. Mais ça ne veut rien dire. Le démon réussit pas mal. Ça ne va pas dire que c'est bon. Deux choses différentes. Alors, on pourrait continuer. Il y en a sûrement toute une série. Je continuerai demain. Ce sont ceux que j'ai, que je vois immédiatement maintenant comme ça. C'est toutes des confusions. Et vous pourrez mettre à côté de ça telle idéologie athée. Au cœur. Parce que c'est la perte de la finalité qui fait dégringoler, glisser vers l'efficacité. Bon, alors, dans une recherche de la finalité, quelle première découverte de la finalité ? L'œuvre. Tout le monde peut découvrir cette finalité. L'œuvre finalise l'artiste. Le travail demande une réalisation. Un travail auquel il n'y a pas de réalisation. Vous savez, comme à l'armée, quand vous faites du... Vous faites tout simplement arrêter. Vous avez l'impression de rien faire du tout. C'est très fatigant de rien faire. Vous voyez, on tourne à des fins, il n'y a rien. L'œuvre repose. C'est pour ça que le travail en série, on ne voit pas l'œuvre, c'est très fatigant. Quand on voit l'œuvre, on s'arrête. L'œuvre, c'est fait. Ça y est. Et on pense à la cuisine, quoi. Un gâteau. C'est merveilleux. Un gâteau magnifique. C'est reposant, quoi. Avant de manger, c'est reposant. C'est... Tandis que si, au contraire, ça brûle à la dernière minute, il n'y a rien. On a travaillé 2 heures. En un instant, c'est fini. Alors on pleure sur les ruines de Jérusalem. Deuxième moment où on découvre la finalité. L'amour d'amitié. L'ami finalise l'ami. moment où on découvre la finalité, le bien commun, qui implique une coopération. Là, c'est une fin que je saisis d'un point de vue pratique et humain. Vous voyez que c'est déjà très différent. Dans l'œuvre, la fin est extérieure à moi. Dans l'amour d'amitié, la fin est à l'intérieur de l'amour. L'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. Quelle est la finalité de l'amour ? C'est l'amour. Si vous cherchez une autre finalité que l'amour, vous n'aimerez jamais. L'ami finalise l'ami. C'est tout à fait différent. Donc vous avez là deux conceptions de la finalité tout autres. Et le bien commun, c'est à la fois commun, donc immanent, et en même temps transcende. Il y a les deux. Le bien commun est une sorte de, je ne dis pas de synthèse, mais quelque chose qui fait que ça implique les deux. Alors ensuite on transpose la finalité du côté connaissance spéculative qui recherche la vérité. La recherche de la vérité pour elle-même, indépendamment de l'action, indépendamment des réalisations. La vérité finalise mon intelligence. La fin de mon intelligence, c'est la vérité. La fin de ma vie biologique, la procréation. La fin de ma vie passionnelle. Aucune finalité, l'anarchie. C'est intéressant de voir le manque de finalité. Et donc, l'imaginaire, les passions sont toujours liées à l'imaginaire. Dans l'imagination, il n'y a pas de finalité. C'est très curieux, ça. Un monde imaginaire est un monde sans finalité. L'intelligence recherche la vérité. Donc vous voyez que la vie, il y a l'aspect très concret de la vie biologique, la procréation. Alors quand je passe à l'être, est-ce que je peux saisir ce qui finalise l'être ? Bien, je pars de l'expérience, toujours. Dans l'expérience, je constate deux états. Ma propre personne. Je dors et je suis éveillé. Je vous ai dit, l'expérience quotidienne, c'est quand même une fameuse expérience. C'est la même personne qui connaît deux états différents. Dormir et être éveillé. Alors là, on voit tout de suite des spiritualités différentes. Est-ce que vous dormez pour être éveillé? Ou est-ce que vous êtes éveillé pour dormir? Ah, c'est très très intéressant ça, parce que ça vous fait comprendre pas mal de choses. Freud reconnaît les deux états, mais il dit, quand je suis éveillé, ma finalité, le devoir, quand je dors, le plaisir. Et au fond, je suis éveillé pour dormir. Parce que c'est le plaisir. C'est pas drôle de te voir. C'est très intéressant de voir ces deux états. Au plan substance, vous voyez, au plan de la substance, c'est la même personne. Donc rien n'y change au point de vue substantiel. Donc il y a quelque chose de tout à fait nouveau au point de vue de l'être. C'est deux états. Et c'est uniquement des états différents. un état parfait, un état imparfait. Alors je vois que je peux retrouver au niveau de toutes mes expériences un état imparfait, un état parfait, deux états différents. Et l'état imparfait est ordonné à l'état parfait. L'architecte est capable de construire. Et l'architecte construit. Quand il est capable de construire, c'est l'aspect imparfait, le possible. Quand il construit, il est dans l'état de perfection. Il est en acte. Celui qui a des habitus, des qualités, la qualité de sagesse qu'il a acquise, il peut contempler. Il est capable de contempler, il contemple. Chaque vertu que vous avez, vous êtes capable d'agir vertueusement et vous agissez vertueusement. Alors voyez, ce qui est très intéressant, c'est que je vois à tous les niveaux d'intelligibilité de l'homme la distinction entre parfait et imparfait. Au niveau de la vie, au niveau de l'être, au niveau du devenir, au niveau de mes opérations éthiques, au niveau de mes opérations artistiques, je vois toujours deux états. L'état de celui qui est imparfait, l'état de celui qui est parfait. Alors je pose la question. Pourquoi ces deux états? Qu'est-ce qui finalise un état par rapport à l'autre? C'est que l'un est parfait et que l'autre est imparfait. Comme, de fait, je retrouve cette distinction au niveau de la vie, au niveau de mes opérations, au niveau du devenir et au niveau de l'être. Cette distinction, elle est donc fondamentale et elle touche l'être. L'être est donc lui aussi possible ou en acte. Je touche là, par le fait même, la fin de l'être, qui est l'être en acte, qui finalise l'être possible. Je suis donc en présence d'une nouvelle division de l'être, tout à fait différente que celle de substance et accident. Vous allez tout de suite comprendre. Première division de l'être, substance, accident. Deuxième, l'être en acte, qui est fin. L'être en puissance. Vitales sont des accidents. L'action et la passion, c'est pas ma substance. Et ces opérations vitales sont l'être en acte et pas l'être en puissance. Là, je vois bien que cette seconde division de l'être est autre que la première, puisque ce qui peut être dans la première division quelque chose de second est premier dans la seconde division. Je suis donc en face d'une division de l'être tout autre que la première. Substance, accident, c'est la division au niveau de la causalité. est formel. Et ce qui est en acte et ce qui est en puissance est au niveau de la causalité finale. Voilà, ça c'est la seconde grande induction. L'être en acte. L'être en acte qui est fin. L'être en puissance qui est ordonné. Alors, une fois que j'ai saisi ça, c'est très subtil hein, comme induction, et en même temps c'est très simple, puisque je constate des états parfaits et imparfaits. Je constate l'ordre qui existe entre les deux. Cet ordre existe à des niveaux différents. Donc, si je cherche par rapport à l'être qui est commun à toute cette diversité, je vois que l'être en effet se divise en être en acte et en être en puissance. Je peux, à partir de là, réfléchir et dire que cette distinction me met en présence du principe de finalité. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. C'est le principe de finalité au niveau métaphysique. L'être en puissance n'est jamais premier, il est ordonné à l'acte. Seul l'être en acte est premier. Et je peux, à partir de là, préciser les diverses modalités de l'être en acte. Et si je veux préciser les diverses modalités de l'être en acte, je dis ceci. Laissez l'être en acte, l'être, exister. La vérité, la bonté, les opérations vitales, le mouvement. Vous avez cinq modalités de l'être en acte. Là, je vous donne le résultat. Cinq modalités de l'être en acte, parce qu'il faut essayer de comprendre comment je peux avoir ces cinq modalités, c'est sûr. Mais c'est assez facile à comprendre. L'être, l'exister en acte, c'est au niveau de la substance. Donc c'est au niveau de la philosophie première. La vérité, la bonté, c'est au niveau de l'esprit. Les opérations vitales, c'est au niveau de la vie. Et le mouvement, c'est au niveau physique. Oui. Toute ma philosophie est reprise dans la distinction de l'être en acte et en puissance. Et ce qui est merveilleux, c'est que ici, l'esprit apparaît. Vous voyez comment j'intègre dans ma philosophie de l'être la philosophie de l'esprit. Et je vois bien que la philosophie de l'esprit, du côté de l'être en acte, me donne deux grandes dimensions nouvelles. La vérité et la bonté. Donc, l'amour. La philosophie de l'amour, elle est au niveau de l'esprit. L'amour provient de la bonté. Tout amour est ordonné au bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. Le bien, c'est ce qui suscite en moi un amour. C'est mon bien. Mon bien suscite en moi un amour. L'amour spirituel et l'esprit d'intelligence. Alors vous voyez, ça, s'il faut expliciter tout ça, ça mettra du temps. Mais je vous donne comme ça pour montrer que la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance, c'est quelque chose qui reprend tout et qui me permet de saisir le lien qui existe entre une métaphysique de l'être